Pour être honnête, c'est plutôt juste la croûte terrestre, hein, l'écorce sur laquelle on se balade. Parce que de notre point de vue, c'est ça qui est important, c'est la surface de la Terre. Cette surface de la Terre reçoit de l'énergie de trois sources différentes, qui n'ont pas du tout la même importance. La première, c'est le Soleil. La deuxième, c'est la chaleur qui vient de sous le sol, et donc qui est due à la radioactivité des éléments naturels. Et la troisième, c'est les marées. On verra ce que c'est. Enfin, la source d'énergie des marées, en fait, c'est l'énergie de rotation de la Terre. Voilà. Et puis, on parlera des infrarouges pas mal ensuite. Alors, le Soleil. Le Soleil, c'est la source majeure et de loin d'énergie sur Terre, donc à la surface de la Terre. C'est 10 000 fois ce dont on aurait besoin. Et par contre, c'est un peu ce qui fait marcher absolument tout le système Terre à la surface. Parce qu'on va voir que c'est responsable de la grande majorité des phénomènes. Notamment, une grosse composante, c'est que le Soleil fait, par exemple, s'évaporer l'eau des océans. Donc ça nous rend deux services, ça remplit nos barrages, et aussi ça dessale l'eau de mer. Parce que sans le Soleil, il n'y aurait pas d'eau pas salée, en fait. Le Soleil crée, en fait, aussi, comme le Soleil chauffe surtout la surface, vraiment la surface, et pas tellement les couches d'air intermédiaires, l'air chaud se retrouve en bas. Et quand l'air chaud est en bas, il a tendance à monter. Ça fait ce qu'on appelle des mouvements de convection, et c'est ça qu'on appelle aussi le vent. Donc le Soleil est à l'origine du vent, et il y a environ 3% de l'énergie solaire qui se retrouve dans l'atmosphère sous forme d'énergie cinétique du vent. C'est le vent qui pousse l'eau en surface et qui va créer les vagues. Et puis, c'est aussi le Soleil qui fait pousser les plantes. Et les plantes, ce qu'elles font, c'est qu'elles stockent l'énergie du Soleil sous forme chimique. Cette énergie, elle est relarguée dans deux cas. Quand, par exemple, vous mettez le feu à un morceau de bois, ou quand une forêt brûle, ce qu'on voit, c'est le relargage, un peu brutal, j'admets, de l'énergie stockée dans les plantes. Et il y a une façon moins brutale de relarguer cette énergie, c'est juste de manger des plantes. Parce que nous, on ne fait rien d'autre que la brûler, mais tout doucement. Alors, il y a l'énergie de l'intérieur de la Terre. Donc, à peu près tous les éléments radioactifs qui étaient présents à l'origine, à la formation de la Terre, se sont désintégrés, sauf surtout l'uranium et le thorium, qui sont deux éléments très lourds. Et ils créent, à eux deux, plus aussi un peu de potassium, la chaleur qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Alors, c'est la même chose que pour le vent. La chaleur libérée à l'intérieur de la Terre fait qu'il y a des mouvements de convection qui se produisent à l'intérieur de la Terre. C'est ça qui va expliquer donc, la tectonique des plaques, les tremblements de terre, le volcanisme, et aussi le champ magnétique terrestre. Donc tout ça, tous ces phénomènes, sont alimentés en énergie par la radioactivité naturelle à l'intérieur de la Terre. Et nous, ce qu'on fait dans une centrale nucléaire, c'est qu'on prend de l'uranium-235 et on accélère sa désintégration. Si on en met suffisamment ensemble, de façon suffisamment concentrée, la réaction de désintégration s'auto-entretient, en fait, ce qui fait qu'on libère en très peu de temps une énergie qui aurait mis des millions, voire des milliards d'années à se libérer sinon. C'est ça le principe de des centrales nucléaires et aussi des explosions nucléaires. Voilà. En quel cas, ça se libère très très rapidement. Ça, c'était la deuxième source. Et donc, la chaleur qui arrive depuis sous nos pieds, représente au total à peu près une fois nos besoins mondiaux. D'accord ? Juste pour un ordre de grandeur, évidemment, c'est pas très très récupérable. Mais c'est à peu près une fois nos besoins. Et puis la troisième source, c'est les forces de marée. Alors les forces de marée, en gros, c'est juste parce que quand on est sur Terre, près de la Lune, alors c'est pas facile à voir, mais quand la Lune est au-dessus de vous, elle vous attire un peu plus que quand vous êtes de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, vous êtes plus loin de la Lune, donc elle vous attire moins. Et ça, ça fait que, en gros, deux fois par jour, vous vous sentez un peu tiré vers le haut, quand vous êtes au plus proche de la Lune et au plus loin de la Lune. Et, alors nous, on ne le sent pas trop comme ça, ça peut se voir parce que l'eau y est beaucoup plus sensible, et que donc l'eau a des mouvements qui ont à peu près cette période. Il y en a deux fois par jour, il y a des marées. Et puis, il y a la plupart des courants, enfin, il y a beaucoup de courants océaniques qui sont dus à ce phénomène. Alors, le truc, c'est, on peut se poser la question, d'où vient l'énergie qui agite l'eau comme ça ? Même nous, enfin, voilà. Alors ça vient en fait de la rotation de la Terre. Si la Terre ne tournait pas, ben, on serait peut-être plus attiré par la Lune, mais ça ne changerait pas au cours de la journée. Et donc c'est à cause de la rotation de la Terre qu'il y a des forces de marée. Et ces forces de marée, elles font bouger l'eau, elles la mettent en mouvement, donc ça c'est de l'énergie cinétique bien ordonnée, et forcément il y en a une partie qui est dissipée sous forme de chaleur. Comme la source d'énergie, c'est en fait la rotation de la Terre, petit à petit, la Terre ralentit. C'est-à-dire que la durée du jour augmente. Il y a quelques centaines de millions d'années, la durée du jour, c'était 18 heures. Ça, on sait le voir dans les fossiles. Donc, voilà. Donc ça, c'est une source d'énergie. Mais il faut se dire que, par exemple, quand on va vouloir prendre de l'énergie des courants de marée, ce qu'on fait, en réalité, c'est qu'on augmente la durée du jour. C'est pouillamesque, un tout petit peu. Mais n'empêche que c'est ça qu'on fait. Bon, simplement, pour arrêter la Terre, il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usines marées motrices. Et donc, c'est pas... à notre échelle, c'est une ressource quasi renouvelable. D'accord ? Mais c'est pas comme le vent. Le vent, c'est le soleil. Donc ça arrive de toute façon. Là, c'est un stock d'énergie. Énorme, mais un stock d'énergie qui diminue. Et finalement, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette énergie qu'on reçoit de ces trois sources, il faut forcément... Je vous ai dit que l'énergie se conservait, donc... Ça arrive, ça va créer du vent, ça va créer des courants océaniques, ça va créer tout ce que vous voulez, des plantes, tout ça, mais tôt ou tard, cette énergie va se retrouver dissipée dans l'environnement, sous forme de chaleur. Et quand on fait ça, le problème c'est que, enfin, si on faisait que ça, la surface de la Terre chaufferait indéfiniment. En réalité, elle se débarrasse de cette chaleur, et pour se débarrasser de cette chaleur, c'est simple, la Terre rayonne, de la même manière que le Soleil. Sauf que le soleil, lui, rayonne dans le visible, la Terre, elle rayonne dans l'infrarouge, donc nous, on ne le voit pas. Ce rayonnement infrarouge, il est libéré dans l'espace, typiquement la nuit. C'est pour ça que la nuit, il fait plus froid. Et surtout, vous avez sans doute remarqué qu'il faisait plus froid les jours où il fait beau, c'est-à-dire où il n'y a pas de nuages. Parce que les nuages, en fait, ils agissent comme une couverture, ils empêchent les infrarouges de s'échapper. Quand il n'y a pas de nuages, les infrarouges, ils s'échappent vers l'espace, et la surface de la Terre se refroidit très rapidement. Donc c'est comme ça que la surface de la Terre garde son équilibre en termes de température, c'est qu'elle se libère de toute l'énergie qu'elle reçoit en la réémettant sous forme d'infrarouge. Alors heureusement, l'atmosphère garde une partie de ces infrarouges, sinon il ferait moins 15 sur Terre, en moyenne, il fait plutôt plus 15, donc c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Plus 15, j'exagère peut-être un peu. Il fait plutôt bon, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ça, c'est une bonne chose, l'effet de serre, sinon on se pèlerait. Et on verra que, par contre, évidemment, dans le réchauffement climatique, ça a un certain rôle. Alors maintenant, on va en venir à notre gros problème. Maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est l'énergie et quel est son circuit sur Terre, on va essayer de voir déjà pourquoi est-ce qu'on commence à parler d'énergie renouvelable. Pourquoi est-ce qu'on est un peu obligé ? Pour ça, il faut savoir quelle énergie on consomme pour l'instant et sous quelle forme. Alors, j'ai un camembert pour vous. Alors, c'est un résumé de ce que nous, on consomme directement et de à quel type d'énergie on peut attribuer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale, la consommation finale, ce que nous, on consomme directement. En fait, un quart de toute l'énergie qu'on consomme, alors c'est des chiffres en France seulement, hein. Je prends les chiffres de la France parce que, pour plein de raisons, les chiffres du monde sont d'un certain côté plus inquiétants, parce qu'il y a un peu moins de nucléaire, donc vous verrez que ça peut... Enfin, il y a plus d'énergie fossile, que par contre, le reste du monde consomme peut-être un peu moins d'énergie en moyenne que ce que nous, on consomme, et que, bah, juste, ça nous concerne plus. D'accord ? Ça fait plus référence à ce qu'on en fait vraiment dans la vie de tous les jours. Alors, un quart de l'énergie qu'on consomme, c'est sous forme d'électricité. L'électricité, elle est fournie par le nucléaire, hein, à 18%. Enfin, au final, ça représente la majeure partie de l'électricité, mais ça représente 18% de l'énergie qu'on consomme, on peut dire. On voit surtout qu'il y a un grand truc gris en bas, c'est le pétrole. Donc, la moitié de toute l'énergie qu'on consomme, nous, directement, c'est sous forme de pétrole. Quand je dis « nous », c'est les particuliers, les industries, tout ça, tous ceux qui achètent de l'énergie. Le deuxième poste, en fait, c'est le gaz. Évidemment, le gaz, en grande partie par les particuliers, pour se chauffer, par exemple, ou des choses comme ça. Ensuite, donc, dans l'ordre décroissant, vient le nucléaire, parce que ça fournit en fait la majeure partie de notre électricité. On voit que ensuite, la première source en fait renouvelable d'énergie qui arrive en termes d'importance, c'est le bois. Le bois fournit quand même, encore aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, 6% de toute l'énergie. C'est une quantité vraiment pas négligeable. Ensuite, on trouve le charbon, dont l'usage est en réduction constante, parce qu'en fait, bon, c'est surtout la sidérurgie qui utilise beaucoup de charbon, et la sidérurgie, plus ça va, moins il y en a en France. Et puis, enfin, alors je dis enfin, on va voir, l'hydroélectrique représente quand même environ 3% de toute l'énergie qu'on consomme. Alors, pourquoi j'ai dit enfin ? Parce que sur le camembert, j'ai rien représenté d'autre. On va voir qu'il y a quand même de l'éolien, que c'est pas totalement négligeable pour l'instant, mais quand même, si je devais le représenter là, sur le camembert, en gros, du fond, puis même de devant, vous verriez rien. Parce que c'est encore tout petit. Évidemment, c'est appelé à augmenter, c'est le sujet d'aujourd'hui. N'empêche, on a un problème, en fait, c'est que les ressources fossiles ne sont pas des sources renouvelables, donc tôt ou tard, on va en manquer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, enfin, aujourd'hui, oui, en gros, on consomme 3 fois plus de pétrole qu'on en découvre. Et celui qu'on découvre, il ne va pas être facile à sortir. Il est genre situé à 2000 mètres de profondeur, sous la mer, ou alors il est mélangé à du sable au Canada, ou il est très lourd, c'est pas facile d'en faire l'essence. Donc, c'est des choses qui sont... Donc, il y a un truc qui est sûr, le pétrole finira par manquer. On en aura en même temps toujours. Il y en aura toujours du pétrole. La question, c'est est-ce qu'il y en aura assez pour nos besoins ? Parce qu'on est quand même très très gourmand en pétrole. Il faut quand même vous dire qu'en gros, on consomme par an l'équivalent de... Enfin, on consomme en énergie fossile, on consomme 120, 130 millions de tonnes d'équivalent pétrole. En pratique, c'est à peu près 92 millions de tonnes de pétrole, et puis après, pas mal de mètres cubes de gaz et de mètres cubes de charbon. D'accord ? Mais 92 millions de tonnes de pétrole qu'on engloutit tous les ans. C'est assez conséquent. Donc, on est vraiment très gourmand en pétrole, et plus ça va, plus ça augmente. Donc, le problème, c'est que il y a un moment, ça va forcément se passer. Alors, le truc, c'est à partir de quand est-ce qu'on pourra plus produire plus ? Et là, tout le monde commence à être à peu près d'accord. Les pétroliers disent que c'est 2020. À partir de 2020, alors qu'on aura sans doute envie de plus de pétrole, on ne pourra pas produire plus de pétrole. Même si notre envie de plus de pétrole est modeste. Donc ça va se mettre à décroître. Donc il y en aura encore beaucoup, hein, ça, il n'y a aucun doute. Mais simplement, on en voudra plus et il y en aura moins. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ben, tout le monde va se battre pour acheter du pétrole, c'est-à-dire qu'on va se battre économiquement parlant, c'est-à-dire qu'on va le payer plus cher. Alors quand est-ce qu'on va le payer plus cher ? En fait, ça a déjà un peu commencé. Il y a encore 4-5 ans, le pétrole, c'était vraiment pas cher. C'est toujours pas très cher. Mais là, le baril est quand même remonté à 80 dollars après des passages à des prix bien plus élevés. Donc le début des prix un peu élevés, il a déjà commencé. Ça va s'empirer dans les 10 ans qui viennent. Et on ne sait pas ce que ça donne après 2020, mais ça risque d'être un peu sanglant. Et puis on a un problème, c'est que j'ai mis « les ressources sont inégalement réparties », c'est un euphémisme pour dire que nous, on n'en a pas du tout, ou presque. Donc forcément, hein, tension géopolitique, il y a des pays qui utilisent l'énergie comme une arme géostratégique, notamment la Russie. Ben, ce ne sont pas que des copains comme ça, mais ouais, c'est efficace. J'ai mis aussi que ce qu'on trouve est difficile à extraire. Pour vous donner une idée, quand on veut extraire 2 barils de conditions vraiment très difficiles, il faut en brûler un. C'est-à-dire qu'il faut fournir énormément d'énergie pour arriver à sortir le pétrole de là où il est. Quand le pétrole il est au fond de la mer, il est froid, il est très visqueux, voire même, bon, pas solide, mais il faut le chauffer pour le faire sortir, et il faut injecter de l'eau chaude sous pression. Ça demande énormément d'énergie. Donc même quand on vous dit on a découvert, par exemple, un champ de 3 milliards de barils, il faut entendre qu'en fait, il n'y en a que 2 qui sortiront. Parce qu'il y en a un tiers qui sera utilisé pour sortir les 2 autres. C'est pour ça que, en fait, les découvertes en pétrole, c'est pas de l'énergie. On n'a pas découvert, quand on découvre 3 milliards de barils, on n'a pas découvert 3 milliards de barils d'énergie disponibles, mais que 2, à peu près. Alors, Le changement climatique, puisqu'on en parle énormément. Le souci, c'est qu'en brûlant les énergies fossiles, on a libéré énormément de CO2. On n'a pas fait que ça, on a aussi libéré du méthane, mais on a libéré beaucoup de CO2, et le CO2 agit un peu comme les nuages dont je vous ai parlé. C'est une sorte de couverture qui empêche les infrarouges de s'échapper. Ce qui fait que, en ce moment, la surface de la Terre stocke un petit peu d'énergie, tout le temps et en permanence. Donc on est en déséquilibre, d'accord ? Il y a encore 150 ans, c'était un équilibre assez parfait entre ce qu'on recevait et est-ce que la Terre arrivait à réémettre. Là, on est en déséquilibre. Donc, on stocke un peu de chaleur. La chaleur, donc la température augmente tout doucement. Alors on appelle ça le forçage radiatif. Alors radiatif, radiation, c'est un peu comme si le soleil chauffait un peu plus. C'est un surplus d'énergie qu'on appelle le forçage radiatif. C'est un surplus d'énergie par mètre carré de surface terrestre. Bien, donc ça se réchauffe. On le sait non seulement parce qu'on voit des augmentations de température moyennes, ça c'est pas toujours très difficile, très facile à voir, n'est-ce pas, surtout dans la salle là, par exemple. On le voit aussi parce que les océans se dilatent, donc le niveau des mers monte, ça se mesure. On voit que les glaces fondent en moyenne, donc tout ça, c'est des indices absolument certains que l'atmosphère se réchauffe, et on est à peu près sûr, avec les modèles, ça, que c'est de notre faute. Notamment parce qu'on a brûlé des énergies fossiles. Alors, il y a un truc, c'est que je vous ai parlé de l'épuisement du pétrole, mais en fait, la ressource fossile la plus abondante sur Terre, c'est pas le pétrole, c'est le charbon. Alors, le truc, c'est que le charbon, on en a encore plein. Et finalement, on pourrait, si on voulait, parce qu'on peut même transformer le charbon en essence, ce qui est très pratique. Mais ça dégage énormément de CO2. Donc globalement, le charbon, s'il est plus solide, c'est parce qu'il contient plus de carbone. Donc quand on va en brûler pour obtenir la même énergie qu'avec le pétrole, ça va libérer plus de carbone. Donc d'un point de vue CO2, le charbon, ça va en émettre beaucoup. Ça ne va pas arranger notre problème de réchauffement climatique. Ça va résoudre en partie notre problème d'approvisionnement en énergie fossile. Mais finalement, on est tellement gourmand d'énergie fossile, que même en allant chercher le charbon très loin, à grande échelle, on repousse le problème de l'approvisionnement en énergie fossile que d'une trentaine d'années. Autrement dit, à partir de 2040, 2050, on n'aura plus de charbon non plus, plus assez pour satisfaire nos besoins. Si on continue comme ça. Bien, donc forcément, il va falloir se tourner vers autre chose. C'est ça le premier problème. Les ressources fossiles s'épuisent, il va falloir se tourner vers autre chose, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus des énergies renouvelables. Alors, donc il y a deux voies qu'on peut emprunter pour résoudre le problème. La voie du remplacement, donc c'est pour ça qu'on parle des énergies renouvelables, et on peut aussi économiser l'énergie, et ça, on en discutera après. Donc pour l'instant, on va passer aux énergies renouvelables. Alors comme je vous ai fait un schéma assez précis de où était l'énergie sur Terre, ça ne va pas être trop dur de faire la liste des endroits où on peut aller la chercher. Et puis, je vous donnerai des chiffres, un peu, qui permettront de savoir, en gros, combien il y en a d'énergie dans ces endroits-là. Alors, ce qu'on appelle une énergie renouvelable, il faut d'abord se mettre d'accord sur la définition. Par exemple, le pétrole, c'est une énergie renouvelable. Il faut juste attendre quelques millions d'années qu'il se forme. Mais si on est patient, a priori, c'est renouvelable. Donc, l'idée, c'est que ce qu'on va appeler renouvelable, c'est de l'énergie qui se renouvelle rapidement. On va dire tous les ans. D'accord ? Pas plus. Genre le bois. Les forêts, tous les ans, elles poussent. Donc ça, c'est un stock rapidement renouvelable. Les barrages se remplissent, même chose, c'est un stock rapidement renouvelable. Et il y a aussi tout ce qui est les flux constants d'énergie cinétique. Donc l'énergie visible qu'on va essayer juste de récupérer. Donc le vent, tout ça. La chaleur qui nous vient de la Terre, tout. Alors, ça c'est une présentation un peu rétro des choses, c'est les quatre éléments. On peut trouver finalement des énergies renouvelables dans les quatre éléments. L'air, le vent, l'eau, il y a pas mal de sources d'énergie renouvelable. La terre, le feu si on veut, la lumière plutôt. Et puis aussi dans les êtres vivants. Donc on va lister tout ça et voir à peu près ce qu'on en fait déjà et ce qu'on pourrait en faire. Alors, l'énergie éolienne. Donc, l'idée, c'est de convertir le vent en électricité directement, le plus directement possible, parce que ça, ça se fait avec un très bon rendement. Alors on met donc des grandes éoliennes, en général avec un diamètre de 40 à 100 mètres, maintenant c'est à peu près ça qu'on fait. Et pour l'instant, en 2008, plus exactement, en 2009 on ne sait pas encore exactement, mais on a produit 6 TWh. Alors, il faut que je vous donne juste des ordres de grandeur, ça ne va pas trop vous embêter avec les chiffres, un peu. Tous les ans, on consomme en France 500 TWh. Alors vous connaissez peut-être les kilowattheures. La définition du kilowattheure, c'est... Enfin, le watt-heure, c'est un watt, un appareil d'un watt pendant une heure. C'est l'énergie qu'il faut donc faire. Donc quand vous avez un aspirateur de 1000 watts, qui marche pendant une heure, il vous faut un kilowattheure pour l'alimenter. Un mégawattheure, c'est un million de kilowattheures. Un gigawattheure, c'est un milliard de watt-heures. Et le terawattheure, c'est 1000 milliards de watt-heures. Donc, un milliard d'aspirateurs pendant une heure. À peu près. Donc, c'est une quantité d'énergie absolument énorme. D'accord ? C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Vous allez voir, hein, d'ailleurs, quand plus on compare aux énergies renouvelables, plus on s'aperçoit qu'on est quand même vachement gourmand. Donc, on produit 500 TWh, on consomme 500 TWh d'électricité par an, et des éoliennes en produisent pour l'instant 6. D'accord ? C'est pour ça qu'on ne les voyait pas sur le graphique. L'objectif en 2020, c'est d'arriver à produire, à l'aide d'environ 6000 éoliennes, quelque chose comme 40 TWh. Et puis, le potentiel, alors ça c'est, quand je mets potentiel, c'est vraiment super blindage. Enfin, on blinde la France d'éoliennes. Les côtes, tout ça, on en met vraiment un paquet, hein, 30 000. Pour l'instant, voilà, il y en a 2 000 à peu près en France, un peu plus. Ouais, ça dépend, ça varie tout le temps. Hein. Peut-être que le temps de l'exposé, déjà, ça aura changé pas mal d'éoliennes. Mais donc, si vraiment on met des éoliennes partout, des grosses, on pourrait atteindre 150 TWh. C'est énorme, hein, ça veut dire en gros ben, voilà, un tiers de notre consommation d'électricité. Ce serait super. Sauf qu'il y a un souci. Alors, le souci, c'est pas seulement ça. Donc ça, c'est une jolie image d'éolienne. Vous voyez le bateau en bas ? Il y a un bateau sur l'image, mais il est tout petit. Voilà, c'est pour vous donner une idée de la taille des éoliennes dont je parle. Hein. Quand je parle de 30 000 éoliennes, c'est 30 000 éoliennes comme ça. Des éoliennes de 2 MW. Donc, ils font marcher 2 000 aspirateurs, si vous voulez. Voilà, quand elles marchent à fond. C'est ça. On va tout faire en aspirateur, ça va être bien. Alors, le grand problème des éoliennes, c'est que c'est pas parce qu'une éolienne tourne qu'elle fournit de l'énergie. C'est peut-être juste qu'elle a de l'élan. Hein, parce qu'elle va pas s'arrêter dès qu'il n'y a plus de vent. Elle continue à tourner. Et d'ailleurs, sur une période d'en gros 10 minutes, une éolienne, elle passe à peu près 5 fois par le maximum de production et 5 fois par rien du tout. Donc faire marcher un frigo sur une éolienne, c'est pas super. D'accord ? Bon. Et le truc, c'est que quand il n'y a pas de vent, ben, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut forcément, vu la façon dont elle est organisée pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a envie que quand on branche un truc dans une prise, il ait de l'électricité. Donc pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose pour prendre le relais. Et pour prendre le relais d'une éolienne, il faut se grouiller. D'accord ? Il faut pouvoir démarrer très vite. Une centrale nucléaire, par exemple, ça ne démarre pas très vite du tout. Mais une centrale thermique au charbon ou au gaz, encore mieux, ça démarre super vite. Donc quand on a des éoliennes, une certaine puissance, mettons qu'on ait 2000 aspirateurs d'éoliennes, il faut 2000 aspirateurs de charbon ou de gaz à côté pour pouvoir démarrer au cas où l'éolienne ne marche pas, voire même marcher les deux tiers du temps, puisque l'éolienne ne marche qu'un tiers du temps. Donc c'est un des problèmes qui commence à se poser quand on essaye de mettre beaucoup d'énergie renouvelable dans un de nos systèmes actuels. L'exemple, c'est la canicule en Allemagne. L'Allemagne, ils ont une grosse capacité d'éoliennes. Vraiment, il y a beaucoup d'éoliennes. C'est comme le Danemark. Le Danemark, c'est éolien et charbon. Parce que forcément, il faut pouvoir fournir quand les éoliennes ne marchent pas. Et en 2003, il a fait très chaud. Et quand il a fait très chaud, il n'y avait plus un pet de vent, rien du tout. Donc, aucune éolienne qui marchait. Donc, en fait, ben, ils ont acheté de l'électricité ailleurs, de l'électricité nucléaire. Ils ont beaucoup brûlé de charbon. Donc d'un point de vue environnemental, c'était pas évident que c'était super. Surtout pour faire marcher les clims. Bon. Donc c'est très très irrégulier, et ça c'est un problème de tous les flux continus, alors constants, les flux constants ils sont pas très constants, mais les flux d'énergie cinétique, donc le vent, la lumière, ça va toujours être le même problème, c'est qu'il n'y en a pas tout le temps comme on veut. Alors on va passer à l'eau. Dans l'eau, il y a plein de façons de trouver de l'énergie. L'hydraulique, les courants marins, les usines marémotrices, l'énergie des vagues, et ce qu'on appelle l'énergie thermique marine. Donc, on va commencer par l'hydraulique. L'hydraulique, c'est un peu le rêve des électriciens. Si vous voulez de l'énergie, c'est facile, vous ouvrez le barrage. Si vous voulez arrêter, vous fermez le barrage. Si vous avez trop d'énergie, vous pouvez pomper l'eau et la faire remonter dans le barrage. Donc vous pouvez la stocker. Les barrages, on en construit même qui ne sont pas alimentés par des rivières. En fait, on pompe de l'eau en bas et ils stockent l'énergie comme ça. C'est le seul moyen qu'on ait pour l'instant de stocker beaucoup d'énergie ou les surplus d'électricité. Donc les barrages, c'est un rêve d'électriciens. Ils adorent, les électriciens adorent les barrages, ceux qui fabriquent l'électricité. Et actuellement, c'est la principale et de très loin source d'électricité d'origine renouvelable. Puisque c'est quand même 14% de notre électricité. C'est quand même déjà très important. Hein. 70 TWh, donc 70 milliards d'aspirateurs. C'est très très pratique, voilà. Mais le problème, c'est qu'en France, on a un peu déjà mis des barrages partout où on pouvait. Dans les autres pays du monde, il y a encore pas mal de potentiel, mais nous, on est parmi les plus avancés. En termes de... Voilà, on a mis des barrages partout. Bon, donc on peut pas espérer beaucoup plus. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça donne des chiffres tout de suite très, je veux dire, flatteurs. Hein. On tire déjà 15% de notre électricité de sources renouvelables. Mais c'est pas neuf. C'est juste qu'on s'en aperçoit. Bon. Il y a les courants marins. Alors les courants marins, je vous ai dit que c'est pas les Gulf Stream. On pense souvent au Gulf Stream quand on parle de courants marins. Là, c'est plutôt des courants qui sont dus aux marées. Ils ont un avantage par rapport au vent, qui c'est des courants d'air. C'est que c'est beaucoup plus stable. On sait qu'on va pouvoir compter sur eux. Pas tout le temps, mais en gros, 6 heures par... enfin, la moitié du temps, toutes les 6 heures, il y a un cycle de marée qui recommence, et donc on se retrouve avec des courants importants. Donc, à marée haute et à marée basse, ça ne bouge pas beaucoup. Mais, entre les deux, il y a des courants. Alors, c'est prévisible et fiable, et le potentiel, c'est 10 TWh. Alors, c'est juste un septième de ce que produisent les barrages maintenant, mais c'est déjà pas mal. Et puis vous verrez qu'on n'aura peut-être pas les moyens de faire la fine bouche, donc on mettra sans doute aussi des choses pour capter ça. Mais l'Ifremer dit, si vraiment on se bouge, d'accord, en 2030, on arrivera peut-être à avoir 3 TWh. Donc vous voyez que le pétrole ou tout ça, il va peut-être commencer à manquer vers 2020, mais avant 2030, on n'aura pas quelque chose qui produira beaucoup à partir de cette source-là. Enfin, en tout cas, il faut se dépêcher si on veut en avoir. Voici la tête de ce qu'on appelle des hydroliennes. Voici à quoi pourraient ressembler des capteurs d'énergie, des courants. Voilà. C'est comme des éoliennes, sauf que c'est au fond de la mer. Vous voyez, il y a aussi un bateau, le même, peut-être. Et voilà, ça vous donne une idée de la taille. Alors les hydroliennes tournent relativement lentement, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème pour les poissons. Hein ? Parce que sinon, enfin, voilà. Donc pas de problème pour les poissons. Et c'est un côté pratique pour le sushi. Mais... Donc pas de problème pour les poissons. Et on peut en mettre par contre que pas trop loin des terres, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop profond. Parce que trop profond, c'est moins accessible, plus difficile d'installer des hydroliennes et d'aller les réparer. Alors, il y a les usines marémotrices. Donc je vous en ai parlé. En fait, quand je dis les usines marémotrices, en gros, il n'y en a qu'une dans le monde et elle est en France. C'est l'usine de Larance. Elle produit 0,6 TWh. C'est pas énorme. Le problème, c'est qu'il faut boucher tout un estuaire pour arriver à retenir l'eau quand elle monte. Donc, une usine marémotrice, il faut quand même que je dise, c'est juste un barrage. Mais un barrage qui est ouvert la moitié du temps, qui laisse l'eau rentrer quand la marée monte, et qui l'utilise comme un barrage quand la marée redescend. Donc, le potentiel n'est pas grand, parce qu'en France, il faudrait vraiment boucher plein d'espères, et il n'y en a pas vraiment qui se prêtent à cet exercice. Donc, on ne dépassera jamais beaucoup ça. Donc, le truc qu'il faut se dire, c'est que c'est l'usine qui... Bon, elle n'est pas... Voilà, c'est la seule usine au monde qui augmente la durée du jour. D'accord ? Parce que c'est ça l'effet de... C'est ce qui se passe quand on utilise l'énergie des marées. Ouais, tranquillisez-vous, la durée du jour augmente d'un... Ça doit être un millième de seconde tous les 100 ans, un truc comme ça. De cet ordre-là, donc on ne voit pas trop la différence. Alors, l'énergie de la houle. La houle, c'est les vagues. Alors, le gros avantage, c'est que les vagues, il y en a à peu près tout le temps. Ce qui comparé au vent, en tout cas. Parce que même si elles sont générées très loin de la mer, elles finissent par arriver jusqu'au rivage. Donc, il y a à peu près des vagues tout le temps. Et si vraiment on s'y mettait, on pourrait tirer 40, jusqu'à 40 TWh, donc 40 milliards d'aspirateurs, juste sur l'énergie des vagues. Avec des dispositifs divers et variés, souvent exotiques. Mais bon, en étant optimiste, en 2030, on obtiendra 6 TWh, c'est-à-dire autant que ce que produisent les éoliennes aujourd'hui. Alors quand je parle de dispositifs divers et variés, il faut imaginer quand même ce à quoi ressemblerait le littoral, d'accord, si on décidait d'exploiter vraiment l'éolien. Donc on a vu déjà des éoliennes, il faudrait en mettre vraiment à peu près partout sur les rivages de... Bon, surtout la Manche, tout ça, il faudrait beaucoup de grosses éoliennes. Et puis en plus, on verrait ce genre de choses. Partout dans la mer. Des espèces de serpents de mer ou des trucs à balancier. Comme ça, c'est deux projets, Pélamis et Sirène, qui visent à récupérer l'énergie des vagues. C'est-à-dire qu'en se balançant, ben, il y a des balanciers qui vont transformer l'énergie des vagues en électricité directement. Et ça, il faudrait en mettre à peu près partout le long des côtes pour obtenir... les 40 TWh. C'est pas à peu près, il faudra en mettre partout le long des côtes. Bon, donc ça, d'un point de vue, après, on verra ce qu'on en fait, mais ça arrivera peut-être. Alors, il faut parler de l'énergie thermique marine, parce que c'est un gisement d'énergie monstrueux, mais qu'on ne sait pas du tout exploiter, et on ne sait pas si on saura un jour vraiment. Mais n'empêche que ce serait monstrueux. C'est juste basé sur la différence de température entre la surface, qui est chauffée par le soleil, et le fond des océans, qui est à 4 degrés. Quand on a une différence de température, c'est de l'énergie ordonnée, parce qu'elle est plus concentrée d'un côté que de l'autre. Donc il y a moyen d'en faire de l'électricité et de la transformer en une autre sorte d'énergie ordonnée. D'accord ? La seule chose, c'est qu'il faudrait il faut des mers chaudes, donc c'est plutôt pas chez nous. Donc c'est dans le Pacifique. En gros, en plein milieu du Pacifique, peut-être qu'on pourrait en faire, à condition de brasser des quantités d'eau gigantesques. Et ça, on ne sait pas encore faire, et puis donc on ne sait pas faire. Donc c'est très difficile de donner un ordre de grandeur. Potentiellement, c'est une énergie énorme, mais pour l'instant, personne n'avait vraiment essayé et on ne sait pas du tout faire. C'était juste pour le mentionner. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. On va passer à la lumière. Alors ça, c'est des trucs beaucoup plus connus. Je vais surtout détailler donc, les solaires photovoltaïques et le solaire thermique, parce que ça nous concerne de près, parce qu'il faut les installer en gros sur les toits des particuliers ou presque. Le solaire photovoltaïque, donc on utilise ce qu'on appelle des panneaux solaires. C'est du silicium, un peu trafiqué, qui fait que, naturellement, quand il est exposé à la lumière, il crée, en fait, du courant électrique. Pour l'instant, les panneaux qu'on utilise ont un rendement de 15%. On sait faire mieux. Voilà. On a un rendement de 15%. On sait faire mieux, mais vous allez voir que c'est pas ça qui nous intéresse, qui est le plus difficile. Pour l'instant, les panneaux solaires, ça ne produit vraiment pas grand-chose. On est à 0,06 TWh, donc à peine, on a dit, 60 millions d'aspirateurs. D'accord ? Ce qui est rien du tout. Mais parce qu'on ne fait pas que aspirer, en fait. Ouais. Bon. Donc, c'est 0,01% de notre, 0,1% de notre électricité. L'objectif pour 2012, c'est 1,1 TWh. Vous voyez le facteur, en fait, en 4 ans, par combien on multiplie. En fait, il faut savoir que, en gros, en ce moment, tous les ans, on multiplie par 4 la quantité de panneaux solaires. D'accord ? C'est pour ça que c'est un marché qui est limite même en surchauffe, et qu'on a décidé de réduire un peu les aides, mais parce que c'est énorme, en fait. C'est vraiment un marché en pleine expansion. On en reparlera pas mal, mais... Et l'objectif pour 2020, en gros, c'est de produire 5,4 TWh, c'est-à-dire autant que ce qu'on produit aujourd'hui avec les éoliennes. La question, c'est... Et le truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un potentiel qui est absolument énorme. Si vous couvrez tous les toits de France de panneaux solaires, vous pouvez fournir de l'ordre de 500 TWh. C'est-à-dire autant que ce qu'on consomme comme électricité chaque année. À condition de couvrir tous les toits construits de France. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si lent comparé à l'éolien ? Vous êtes d'accord ? Si le potentiel est réellement énorme, et qu'il n'y a qu'à couvrir les toits, pourquoi est-ce qu'on risque de mettre 10 ans à atteindre 5,4 TWh? Ben, le problème, c'est que pour construire un panneau solaire, il faut beaucoup d'énergie. Il faut, pour l'instant, en gros, 4 ans de la production d'un panneau solaire pour arriver à fabriquer le suivant. Donc si vous avez un panneau qui marche 20 ans, finalement, il ne vous fournit, dans ce cadre-là, que 5 fois l'énergie que vous avez mise au départ. Alors c'est pas mal, hein, comparé au pétrole. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez un baril, vous en récupérez 2. Le rendement, il est de 2. Là, le rendement, il serait plutôt de l'ordre de 5, voire plus. Mais il faut attendre 20 ans pour avoir ce rendement, alors qu'avec le pétrole, vous pouvez le faire tout de suite. Donc, et puis aussi, si on voulait couvrir une première fois tous les toits de France de panneaux solaires, il faudrait juste y consacrer 4 ans de toute notre production électrique. C'est pour ça que les panneaux solaires, c'est cher, et c'est pour ça que ça va lentement, alors que c'est la source d'énergie la plus évidente et la plus grosse de toutes celles qui existent. Vous verrez qu'en réalité, 500 TWh, en couvrant 1% de notre territoire, il n'y a rien qui aboutit à cet ordre de grandeur d'énergie. D'accord ? Bon, donc le solaire, c'est super. Le problème, c'est que ça va être long, et que si on veut avoir vraiment beaucoup d'énergie avec ça, il faut s'y mettre maintenant. Puis l'autre problème, c'est que c'est intermittent. On aimerait bien avoir de l'électricité la nuit et quand il pleut, ou l'hiver, et c'est le moment où les panneaux ne marchent pas. Ils ne fournissent de l'énergie que quand on n'en a pas besoin, c'est-à-dire le jour et quand il fait chaud. Enfin, en gros. Bien, donc, même chose, les panneaux tout seuls, ça ne suffira pas. Même s'ils produisent 500 TWh, si on ne stocke pas l'énergie qu'ils produisent, ben on la laisse juste partir parce qu'on n'en a pas besoin, et puis la nuit, ben on fait tourner des centrales. Donc, les énergies renouvelables, c'est un gros gisement, mais ça pose d'autres problèmes. Alors maintenant, en fait, jusqu'à maintenant, subrepticement, j'ai juste parlé de ce qui générait de l'énergie sous forme électrique, de l'électricité. En réalité, dans les sources renouvelables, il y a des trucs qui fournissent de la chaleur. Ou un équivalent au pétrole, finalement, un truc qui peut remplacer le pétrole. Pendant la Première Guerre mondiale, ils faisaient marcher les voitures au bois, des fois, avec ce qu'on appelait des gazogènes. Donc le bois peut remplacer le pétrole. C'est une voie qui est explorée, en fait, en partie. Donc, simplement, maintenant, il faut arrêter de parler en aspirateur pour parler en litres de pétrole. Donc on est d'accord que... On est d'accord que rien du tout, mais il faut savoir qu'un litre... Un litre donc de pétrole, d'essence, ça permet de faire tourner 10 aspirateurs pendant une heure. Ouais, c'est 10 kWh. Ce qui fait qu'un million de tonnes de pétrole, parce que moi je parle en millions de tonnes de pétrole, c'est 11,6 milliards d'aspirateurs, donc terawatt-heure. Ouais. Alors le truc avec le pétrole, c'est que si on veut faire de l'électricité à partir du pétrole, le rendement n'est pas très bon, donc on en perd les deux tiers. Donc finalement, 1 million de tonnes de pétrole, c'est plutôt 4000 kWh ? Non, terawatt-heure. Donc 4000, oui, kilowatt-heure. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Ouais, ça, c'est pas bon. Mais donc, si vous brûlez 1 litre d'essence, vous récupérez en gros que 4 kWh d'électricité. D'accord ? C'est ça la question du rendement. C'est une question qui est relativement importante. Donc maintenant, on va regarder les sources renouvelables qui fournissent des remplaçants pétrole, sous forme de chaleur ou de choses comme ça. Donc on va parler plutôt en millions de tonnes de pétrole ou millions de tonnes d'équivalent pétrole. Donc là, j'ai mis aussi que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on consomme 126 millions de tonnes d'équivalent pétrole par an en France. Donc il va falloir en trouver pas mal. Alors, il y a le solaire thermique. Ça, c'est le truc qui permet de chauffer vos ballons d'eau chaude en mettant juste des panneaux sur le toit. Ça permet de récupérer une énergie qui serait complètement perdue sinon. Et parce que pour l'instant, on chauffe nos ballons soit avec de l'électricité, soit avec du gaz. Donc, c'est de l'énergie qu'on, quelque part, on gaspille, parce qu'il y a la même sur le toit qui pourrait servir. Donc, c'est une économie d'énergie de mettre du solaire thermique. Et pour l'instant, ça permet d'économiser 0,07 millions de tonnes de pétrole. Donc 70 000 tonnes de pétrole. 70 000 tonnes de pétrole, c'est ça. Le rendement est excellent, c'est super, mais c'est un petit peu cher et c'est pour ça que tout le monde n'en a pas. Mais par contre, un pronostic, à mon avis, on va tous en mettre. On va tous finir par en mettre. Parce que c'est juste une économie d'énergie. Et si tout le monde le faisait, on pourrait économiser 3 millions de tonnes de pétrole sur toutes celles qu'on consomme. Ouais ? C'est pas mal. Il y a la chaleur qui vient de la Terre. Alors, en fait, tout le monde ne peut pas en profiter. Ceux qui en profitent, c'est ceux qui sont pas trop loin des sources de chaleur sous terre. Donc ceux qui ont de la vraie géothermie à disposition. Et en France, par exemple, bah, c'est pas énorme. Il y a surtout dans les plaines de l'Alsace qu'ils peuvent faire des choses. Mais par exemple, dans les... au Groenland, ils ont des sources chaudes naturelles qui peuvent exploiter, ils ont beaucoup, beaucoup de chaleur, et qui peuvent exploiter pour faire ce qu'ils veulent, soit de la chaleur, soit de l'électricité. Nous, on n'a pas ça, ce qui fait qu'en France, en tout cas, même si c'est déjà utilisé pour le chauffage, ça permet de fournir en gros 100 000 tonnes de pétrole, ou d'équivalent, on pourrait remplacer bon, un tiers de tonnes de pétrole, de millions de tonnes de pétrole avec ça. C'est pas énorme, mais on le fera sans doute. Et puis il y a le bois. En fait, le bois, on a vu tout à l'heure que c'était déjà la source principale de, en fait, d'énergie renouvelable. Et pour cause, pour l'instant, ça fournit l'équivalent de 9 millions de tonnes de pétrole. Donc en énergie, c'est de l'ordre de 100 TWh. Donc c'est absolument énorme. Pourquoi ? Ben juste parce qu'en fait, c'est des sortes de panneaux solaires. Ouais. Le bois, c'est une sorte de panneau solaire, il stocke l'énergie sous forme chimique. Simplement, le rendement du bois, c'est pas des arbres, c'est pas très bon. Un panneau solaire, je vous ai dit que c'était 15% de rendement. Un arbre ou une plante, ça stocke en général au maximum 3% de rendement. Et là, je suis vraiment large. C'est plutôt 1% de rendement. Mais par contre, les arbres, il y en a sur une grande, grande, grande surface. Bon, et si vraiment on ramassait... Le pire dans tout, c'est qu'en fait, on ramasse pas tout ce qui est utilisable. On consomme 9 millions de tonnes d'équivalent pétrole, et sans faire beaucoup d'efforts, si on ramassait juste ce qui pousse, on pourrait arriver à 20 millions de tonnes de pétrole. Il n'y a rien qui permet de fournir autant d'équivalent de tonnes de pétrole que le bois. Donc le bois est une énergie d'avenir, il n'y a pas de doute. Il paraît qu'on est chauffé au bois ici, je ne pense pas que ça viendra à manquer tout de suite. Ceci dit encore, on consomme 126 millions de tonnes de pétrole, d'équivalent pétrole par an. Il y a ce qu'on appelle les agrocarburants, dont vous avez sans doute entendu parler, ou les biocarburants. C'est juste utiliser donc l'huile et le sucre pour faire de l'alcool et mettre dans nos moteurs. Pour l'instant, ça fournit 2 millions de tonnes d'équivalent pétrole, c'est pas mal. Mais en fait, il y a une arnaque, c'est que pour arriver à les fabriquer, il a fallu à peu près 2 millions de tonnes de pétrole. Ouais. Il en a fallu un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Le rendement de l'opération n'est pas du tout intéressant. Mais comme ça fait bien et que ça fait écologique, l'État a décidé qu'il allait financer ça. Donc c'est pour ça qu'on en a pour l'instant. Il y a un gros problème aussi, c'est que ce que des trucs qu'on pourrait manger ou boire pour l'alcool. Mais donc a priori, ça rentre en concurrence avec nous. À vous de voir comment vous souhaitez alimenter votre voiture. Mais donc ces biocarburants-là, ils sont sans doute sans avenir. D'accord ? Même s'il y en a pour l'instant, parce que ça fait bien de mettre des biocarburants, c'est pas cela qu'on va garder. En fait, le mieux, ce serait d'arriver à utiliser ce qu'on mange pas dans la plante. Ça, ce serait idéal. Parce que sinon, en fait, on le brûle, on en fait des bottes de paille, des choses comme ça. L'idéal, ce serait de l'utiliser comme un carburant. Bon, la filière est pas prête, c'est-à-dire qu'on sait pas faire. Mais n'empêche que ça pourrait fournir pas mal. On sait pas encore combien... Et puis il y a en partie l'idée de transformer le bois en biocarburant, je vous en ai un petit peu parlé. Donc ça pourrait être, on pourrait transformer tout le bois qu'on a en biocarburant et ça donnerait plusieurs millions de tonnes d'équivalent pétrole, ça serait bien. Ça fait pas encore de quoi faire rouler les voitures non plus, vous allez voir ça. Mais bon, et puis il y a une piste éventuellement avec les algues pour un meilleur rendement, mais qui poussent dans les océans chauds, donc c'est pas trop pour chez nous non plus. Voilà. On arrive à peu près à la fin, presque, il reste les déchets. On considère que la moitié de nos déchets sont des déchets naturels, renouvelables. C'est-à-dire qu'on continuera à les produire. Et quand par exemple... Excuse-moi. Pourquoi c'est pas ça non plus ? Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, quand on fait fermenter les déchets, on a ce qu'on appelle du biogaz. C'est du méthane. Et on peut le brûler. Et c'est un gaz qui se forme de toute façon si vous laissez pourrir des choses dans la nature, et il vaut mieux, d'un point de vue réchauffement climatique, libérer du CO2 plutôt que du méthane. Donc, il vaut mieux brûler le méthane, ça libère du CO2, c'est mieux. Et en plus, ça fournit de l'énergie, donc tant qu'à faire. Pour l'instant, il faut savoir que c'est pas négligeable du tout, puisque c'est 700 millions d'aspirateurs pour la fourniture, donc d'électricité et de chaleur. Ça, ça se fait dans les trucs qui récupèrent le biogaz. Et puis la combustion des déchets hein, quand on les fait brûler dans les
décharges.
Non, pas pour les décharges, mais les incinérateurs, voilà, merci. Fournit quand même 1,8 TWh d'électricité tous les ans. Donc c'est quelque chose d'important. Là, on a mis celles qu'on considérait comme étant renouvelables. En fait, ils fournissent plus, mais le reste, c'est du plastique qui brûle, donc c'est du pétrole. Voilà, on a à peu près fait le tour. Donc maintenant, vient le moment du bilan. Si on regarde combien d'électricité on pourrait produire avec les renouvelables, on arrive à de l'ordre de grandeur de 500 TWh. Attention, il y a des éoliennes partout sur les côtes, il y a des serpents de mer partout dans la mer, à peu près, enfin, sur les côtes aussi. Il y a surtout, en fait, il y a des panneaux solaires sur absolument tous les toits de France. Et on fournit à peu près autant que ce qu'on consomme, mais c'est intermittent. Donc en fait, bon, il faudra de toute façon garder nos centrales si on continue à faire comme maintenant. Et puis, juste une chose, actuellement, on a déjà 76 TWh d'électricité renouvelable. C'est surtout les barrages, hein, à hauteur de 70 TWh. Et en 2020, c'est-à-dire on se bouge quand même pas mal en ce moment, en 2020, on n'aura sans doute que 120 TWh d'énergie comme ça. C'est bien, mais on n'est pas encore aux 500. D'accord ? Et je vous ai dit que pour arriver aux 500, il allait falloir forcer vraiment le trait. Surtout sur le solaire photovoltaïque. Il y a aussi le bois, les biocarburants et les panneaux solaires thermiques, dans l'ordre d'importance. Le bois, c'est énorme. Ça pourrait fournir 20 millions de tonnes d'équivalent pétrole si on l'utilisait. On l'utilise déjà pas mal, mais on pourrait l'utiliser environ deux fois plus. N'empêche, avec ça, il n'y a plus qu'une petite centaine de millions de tonnes d'équivalent pétrole à trouver pour remplacer les énergies qu'on utilise actuellement. Autrement dit, il y a un constat, à la fin, c'est que de toute façon, les énergies renouvelables, ça ne va pas suffire. Et de très loin. D'accord ? On ne peut pas, à l'heure actuelle et avec notre mode d'organisation, on ne peut pas arriver à marcher qu'avec des énergies renouvelables. Donc on va passer à la suite. Alors, en plus, bon, si on décide de marcher avec beaucoup d'énergie renouvelable, c'est-à-dire par exemple plus de 20% de notre électricité d'origine renouvelable, donc intermittente, il va falloir faire les choses vraiment différentes. Donc on aura moins d'énergie disponible si on utilise beaucoup de renouvelables, forcément. On aura une production éparpillée, c'est-à-dire chacun aura sur son toit sa propre production d'électricité, qui marchera que quand il veut pas, mais pas quand il voudrait. Mais tant pis. L'idée, c'est que ça pourrait être utile dans ce cas-là de la stocker individuellement dans des batteries. De toute façon, le temps de retour sur investissement énergétique est long. Ça veut dire qu'au début, on va beaucoup dépenser d'énergie pour s'équiper en panneaux solaires, et après, il faudra attendre un bon paquet d'années pour qu'ils nous refournissent de l'énergie. Donc ça change aussi la façon de concevoir l'industrie de l'énergie. Ça va être une industrie de la patience, si vous voulez. On fait les investissements maintenant, brutalement, puis après, il faut attendre. Et puis, il faut profiter de ce qui sort tout seul. Et il y a un autre truc qui est vraiment très, 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 très différent et qui vous concerne un peu directement, c'est qu'il va falloir, pour mettre ces solutions en œuvre, travailler énormément. Ça va demander un boulot monstrueux parce qu'il faut installer des panneaux solaires sur tous les toits de France, les maintenir, les changer, changer les onduleurs, il va falloir mettre des serpents dans la mer, des éoliennes et tout ça. Et tout ça, il va falloir les maintenir, tout ça va changer notre façon même de produire l'électricité. Il faudra faire tout ça, d'accord ? Une chose aussi, on n'a pas le choix. Comme de toute façon les énergies fossiles, c'est appelé à diminuer, on n'a pas le choix, il faudra mettre toutes ces solutions en œuvre. Toutes celles que j'ai listées. C'est pour ça que j'ai pris le temps de les lister intégralement. Et pour l'instant, si on ne le fait pas, c'est que c'est cher, parce que ça demande beaucoup de travail. Mais justement, on va commencer à parler, donc il y a une chose qui est évidente aussi, il va falloir qu'on consomme moins d'énergie. On va voir rapidement si c'est facile ou pas. Et ce que ça veut dire sur notre avenir. Et on va parler d'économie. Alors, pour l'instant, l'énergie, c'est quasiment gratuit. D'accord ? ça coûte rien du tout. Pourquoi ? Parce que le temps, c'est de l'argent, vous avez déjà entendu ça. Alors moi, je fais de l'économie basique, hein. Je suis physicien, donc je fais de l'économie comme un physicien. Ça va rester vraiment très, très, très ratère. Mais le temps, c'est de l'argent. Ça veut juste dire que si vous voulez occuper des gens à faire quelque chose, il faut les payer, donc ça vous coûte cher. Heureusement pour nous, pour l'instant, la production... Alors que l'énergie, on est bien d'accord, physiquement, hein, c'est ce qui sous-tend tous les phénomènes. On est d'accord, sans énergie, on peut juste rien faire et même pas vivre. N'empêche que dans l'économie, c'est que 1% des gens et 2% du PIB, en gros, donc rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a besoin de très peu de monde pour s'occuper de l'énorme centrale. Il n'y a que 21 sites sur lesquels il y a des centrales en France, des centrales nucléaires, et ça suffit à produire énormément d'électricité. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de monde. Et jusqu'à maintenant, quand vous économisez de l'argent, en fait, ce que vous faites, c'est que vous cherchez à être efficace en temps humain, c'est-à-dire occuper le moins de gens possible à faire quelque chose. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Chinois sont moins chers. Vous savez pourquoi les Chinois sont pas très chers à faire travailler ? C'est juste qu'à travers eux, vous payez quasiment que le paysan qui le fait vivre. Quand vous payez quelqu'un dans nos pays occidentaux, vous payez en fait à travers lui les gens pour s'occuper de ses enfants, les médecins, les gens qui travaillent dans les cinémas pour l'amuser quand il n'est pas en train de travailler, etc. Vous payez tous les trucs rigolos qu'il fait à côté. Quand on paye les Chinois, comme en fait là-bas, ils travaillent beaucoup, ils mangent, ils dorment, mais pour une grosse majorité d'entre eux, ça se limite à peu près à ça. Il faut espérer que ça change, mais ça se limite à peu près à ça. C'est pas cher d'utiliser un Chinois. Donc c'est pour ça que on fait tout fabriquer maintenant en Chine, tout en France, sauf les trucs qui restent difficiles à fabriquer, c'est-à-dire qui demandent de la formation. D'accord ? Tous vos profs, moi compris, voilà, quand on paye un occidental, on paye aussi les universités, les écoles, et tout ça. Il faut juste le savoir. Donc, je suis revenu. Tiens. Donc, pour l'instant, quand on économise de l'argent, ce qu'on économise, c'est du temps humain. Ça conduit à la situation actuelle. Et depuis 50 ans, ce qui limite notre développement, c'est le temps humain, justement. C'est-à-dire que plus on peut faire efficace, et plus on va avancer vite. Alors que, avant, il y a 150 ans, c'était pas le cas. D'accord ? Quand il n'y avait pas le charbon et tout ça, ce qui limitait les choses, c'était la disponibilité de l'énergie, justement. Au Moyen-Âge, en fait, leur problème, c'était d'arriver à se nourrir et à se chauffer. D'accord ? Le pot-au-feu, c'était un plat de riche, parce qu'il fallait pouvoir se payer le bois pour le faire chauffer, mijoter pendant longtemps. Donc, avant, c'était l'énergie qui comptait. Aujourd'hui, c'est juste le temps humain qui nous limite. Et le problème, c'est qu'on va peut-être, si on revient à une énergie plus chère, on va un peu revenir en arrière, il faut espérer pas complètement, sur cette voie-là. Si l'énergie est chère, quand on cherche à pas dépenser d'argent, en fait, on cherchera à pas dépenser d'énergie. Ça, c'est au moins ça, ça, on est à peu près sûr que c'est vrai. Alors, l'énergie deviendra plus chère si, de toute façon, mais surtout si on ne s'y prépare pas. Et donc, bon, c'est ce que je disais, on va chercher à économiser de l'énergie naturellement. Donc on peut penser que notre système économique, même si on le garde, naturellement il va se mettre à économiser plus d'énergie. J'ai dit que la physique allait rattraper l'économie. Il y a des économistes qui disent qu'il n'y aura jamais aucun problème d'énergie. Il suffit de la payer plus cher et on en aura toujours autant qu'on veut. On les appelle les économistes de la Terre plate. Vous doutez pourquoi. Mais a priori, les physiciens ne disent pas ça. Ils disent la quantité d'énergie fossile est finie, donc forcément, à un moment, on va arriver au bout. Bien. Et ce qu'il faut voir, c'est que quelque part, il y a un truc rigolo, c'est que ce qu'on appelle le bon sens, il y a deux types de bon sens, finalement. Il y a un bon sens énergétique, qui voudrait que, par exemple, on ne fasse pas parcourir des milliers de kilomètres à des fraises ou des tomates. Je vais vous donner un exemple de bon sens énergétique. Ce serait de ne pas faire pousser des tomates bio en Hollande, sous serre, en plein hiver, et de les vendre dans un supermarché de Clermont-Ferrand en plein hiver. C'est-à-dire que vous avez chauffé la serre en Hollande, tout ça parce que là-bas elles sont bio, que vous avez ensuite transporté les tomates. D'un point de vue énergétique, c'est une hérésie. D'un point de vue économique, ça peut se justifier. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'efficace. Alors par exemple, c'est efficace de trimballer des tas de composants même produits dans les pays occidentaux quand c'est compliqué, de les faire assembler en Chine, puis de ramener l'ordinateur assemblé dans les pays occidentaux pour le vendre. D'un point de vue énergétique, c'est idiot. D'un point de vue économique, pas du tout. C'est plus efficace en termes de temps humain. Ouais, ça se comprend à peu près, ça. Donc on peut supposer que, quelque part, le bon sens énergétique va redevenir du bon sens économique, comme ça l'était il y a très longtemps. Donc on va se remettre naturellement à économiser de l'énergie. Alors maintenant, on peut se poser une dernière question, avant de conclure, c'est qu'est-ce que ça veut dire des économies d'énergie ? Alors, si vous avez écouté les médias, et si je faisais un sondage, quand je vous parle économie d'énergie, vous allez me dire, oh, c'est facile, il n'y a qu'à remplacer les ampoules par des ampoules basse consommation, bien penser à éteindre la lumière, moins tirer la chasse d'eau, prendre des douches plus courtes, ça, à peu près. Et puis, de toute façon, on ne peut pas grand-chose en plus, parce que c'est l'industrie qui consomme beaucoup d'énergie, c'est des méchants pollueurs, et nous, ben, on est juste des gentils particuliers. En gros, c'est ça, hein. Enfin, je pense pas me tromper. Et aussi, les yaourts font des milliers de kilomètres. Vous n'avez pas entendu ça ? Pour tous les constituants d'un yaourt, si on fait la somme des kilomètres parcourus par les différents constituants, on arrive à 9000. À peu près, pour des yaourts à la fraise. Pour faire venir les fraises. Et ça paraît choquant, d'accord ? Le truc, c'est qu'en fait, cette image-là, elle est complètement fausse. Ne serait-ce que parce qu'en fait, les yaourts consomment vachement plus d'énergie au moment où vous les transportez du supermarché à chez vous, dans votre grosse voiture. Donc, justement, ça vous donne une idée de la réponse qu'on peut avoir à ces questions. La question, c'est qui utilise vraiment l'énergie ? Là, j'ai un petit résumé de qui consomme toute l'énergie qu'on a vue au début. Là. Alors, en fait, le premier poste, bon, ça se voit pas comme ça, c'est les transports. C'est normal, les transports, c'est du mouvement, il faut de l'énergie pour avoir du mouvement. Donc, j'ai distingué les voitures particulières des camions. Mais si on additionne les deux, en gros, c'est un tiers. Un tiers de toute notre énergie, c'est pour faire avancer les voitures, les camions, les bateaux et les avions. Il y a un autre tiers, vous allez rigoler, c'est directement les maisons dans lesquelles on habite, les maisons, les appartements qui le consomment. Directement. Nous, particuliers, on consomme juste avec nos résidences plus que l'industrie tout entière, qui ne consomme qu'un quart des ressources. Et si on additionne nos voitures plus nos maisons, c'est la moitié de toute l'énergie. En fait, nous consommons, alors vous n'avez pas encore de voiture, mais nous, individus, consommons directement la moitié de l'énergie. On est donc responsable de la moitié des émissions de CO2. Et encore, l'industrie, en fait, ce qu'il consomme, c'est ce que j'ai mis là. L'industrie, en fait, elle consomme beaucoup d'énergie, surtout pour fabriquer le papier, le verre, le plastique, non, mais le métal, les canettes en aluminium, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on consomme aussi très directement. D'accord ? Donc, au final, voilà, un tiers pour les maisons. Et, oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ce tiers pour les maisons, les trois quarts, c'est pas de l'éclairage, c'est en fait du chauffage. Les trois quarts de l'énergie, c'est du chauffage. Et globalement, comme les écoles, il faut les chauffer, même si ça ne paraît pas évident aujourd'hui, hein, c'est chauffé. En fait, on utilise pour se chauffer un tiers de toute notre énergie. Et c'est juste idiot, en fait. Oui. Donc le chauffage, c'est juste un immense gaspillage d'énergie. D'abord parce qu'on se chauffe comme des hommes préhistoriques. Quand vous avez froid et que vous voulez, mettons, 1 kWh de chaleur, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez de la belle énergie bien rangée, sous forme de gaz, de pétrole, d'électricité, et vous la brûlez. Vous libérez 1 kWh d'énergie pour avoir chaud. Il y a un truc qui s'appelle les pompes à chaleur, qui est un truc qu'on a inventé quand même depuis un bon bout de temps. Votre frigo, c'est une pompe à chaleur, et qui fait qu'on peut pomper de la chaleur dans l'environnement et la restituer à l'intérieur, avec un rendement qui va jusqu'à 7, c'est-à-dire que vous prenez 1 kWh de belle énergie électrique et vous obtenez 7 kWh d'énergie, de chaleur. Donc un radiateur électrique, d'un point de vue énergétique, c'est préhistorique. D'accord ? Et en plus, on n'a pas besoin de se chauffer, il suffirait de s'isoler. Alors s'isoler bien, il faut l'équivalent de 30 cm de laine de verre partout, ils n'y sont pas. Par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, une idée, un mur de 70 cm d'épaisseur, c'est presque ce qu'il y a là, c'est équivaut à peu près à 1 cm d'isolant. Autrement dit, ça n'isole rien une maison en pierre. Rien du tout. Donc il faut s'isoler beaucoup, souvent par isolation extérieure. Bon, il faut des triples vitrages, pas des simples, et il faut ce qu'on appelle une VMC double flux, parce qu'en fait, on veut aérer nos maisons, ce qui est une bonne chose, Mais en faisant ça, on rejette de l'air chaud et on fait rentrer de l'air froid. En gros, il y a un cinquième du chauffage des maisons qui sert juste à réchauffer l'air froid qui vient de rentrer. Ce qu'on appelle une VMC double flux, c'est juste quelque chose qui permet de prendre la chaleur à l'air qui sort et de la mettre dans l'air qui rentre. C'est quelque chose de très simple, mais en fait, on l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, l'idée c'était de construire les maisons vite pour qu'elles soient pas chères. Pas de faire en sorte qu'elles consomment peu d'énergie, parce que l'énergie c'était gratuit. Surtout tout ce qui a été construit dans les années 70, et ça, parce que en fait, ça a été construit à l'époque où ils avaient l'habitude d'avoir froid. Il faut être honnête aussi, on a pris l'habitude d'avoir chaud. Je vais aussi avancer. Ah oui, donc il y a un truc aussi rigolo. Donc, on pourrait ne plus chauffer, c'est-à-dire économiser un tiers de toute notre énergie. Et il y a un autre truc qui est rigolo. On vous parle beaucoup des ampoules basse consommation et tout ça. Si vous diminuez d'un degré la température dans vos maisons, voilà, vous économisez plus d'énergie que si vous allumiez jamais la lumière. Alors, les ampoules basse consommation face à ça, d'accord, vous pouvez tirer toutes les chasses d'eau que vous voulez, vous pouvez laisser en veille les appareils, mais vous baissez d'un degré la température, et c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous dit pas où sont les vrais gisements d'économie d'énergie. La chaleur, c'est une énorme quantité d'énergie. Et c'est à ça qu'on occupe donc un tiers de notre énergie. Ensuite, il y a les voitures individuelles. C'est un immense gaspillage parce qu'en fait, le rendement est très mauvais. On utilise des moteurs thermiques parce que c'est pratique. Mais le rendement est de 30%, ça veut dire que les deux tiers du pétrole qu'on brûle, on le brûle pour rien. Et aussi, on utilise des voitures énormes qui pèsent une tonne pour qu'on puisse rouler à 100 km/h. Simplement, en pratique, on est plutôt coincé dans des embouteillages et on fait du 30 km/h de moyenne. Donc même chose, c'est pour une raison de confort qu'on fait ça. Il faudra peut-être y renoncer ou changer. D'accord ? Mais ça, c'est une tellement grosse dépense d'énergie que c'est forcément, quand les choses vont devenir difficiles, parmi les premières choses qu'on va essayer d'éviter. Donc il y a le chauffage, et puis après les transports. Et les transports surtout individuels, qui consomment beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et avec un rendement assez minable. Mais bon, juste pour vous donner une idée, pourquoi est-ce qu'on utilise du pétrole ? Parce que 1 kg de pétrole, ça permet de faire avancer de 15 km. Pour avancer de 15 km avec une batterie, il faut 15 kg de batterie. Donc, si vous voulez, en fait, si vous avez 200 kg de batterie, en fait, vous ferez 200 km maximum avec. Et ça, on n'est pas encore prêt à l'accepter. Donc, on utilise encore le pétrole. Parce que par contre, le prix du kilowattheure est moins cher quand on achète de l'électricité, largement, que quand on achète de l'essence. Donc, c'est moins cher de faire un plein avec une voiture électrique. C'est de l'ordre de 2 fois moins cher. Mais ça, les gens ne le savent pas encore. Et pour l'instant, ils préfèrent encore, parce que c'est plus pratique, utiliser du pétrole. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Eh bien, juste, voilà, on arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut prévoir, quand on est physicien, sur notre avenir énergétique ? Je vous ai donné des chiffres pour vous faire sentir comment la physique permettait de prédire l'avenir un petit peu, sans être voyant. Donc, on est sûr qu'il y a un moment, il faudra qu'on arrête de se chauffer. Pas d'avoir chaud, mais de se chauffer pour ça. Il suffit d'isoler les maisons. Mais vous imaginez, il va falloir isoler la totalité des bâtiments déjà existants en France. Ça va être une entreprise colossale. Vraiment. Si vous voulez, vous pouvez vous recycler dans cette voie-là. Le bâtiment et l'isolation, ça va être une voie royale pour... Enfin, il y aura jamais... C'est facile, je pense qu'il n'y aura jamais de chômage dans cette branche. Et en plus, l'autre truc, c'est qu'il va commencer à falloir avoir des notions de physique assez sérieuses pour faire les choses correctement. Ça, c'est l'autre problème, c'est que la bonne isolation, c'est quelque chose qui, techniquement, est vraiment difficile. Pour l'instant, les gens ne sont pas encore formés. On se déplacera différemment, sans doute moins, encore que, mais surtout plus efficacement. En fait, il y a un peu pas moins efficace que la voiture. Le train, le bateau, c'est des choses qui sont beaucoup plus efficaces que la voiture pour se déplacer. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous ce que j'ai mis là-bas. Voilà. Il faut que j'arrête d'appuyer sur le bouton. Le train, c'est 10% de tous les déplacements en France. Et c'est 1,7% de la consommation énergétique seulement. Donc c'est vraiment en fait quelque chose qui consomme peu d'énergie. Le bateau, c'est encore mieux. Mais simplement, on ne peut pas aller de bateau, en bateau de Rillac à Clermont-Ferrand pour l'instant. Voilà, mais donc le train, le bateau, c'est des choses qui ont de l'avenir. Et puis a priori, si on met vraiment beaucoup de trains, beaucoup de tramways, il n'y a pas de raison que ce soit beaucoup moins pratique que la voiture pour se déplacer dans une ville. Donc ça, c'est des choses qui arriveront forcément. On consommera peut-être moins de matières premières. Ça, c'est ce qu'on appelle la baisse du pouvoir d'achat. C'est un peu prévisible. Et puis, la distribution de l'énergie sera différente. On sera tous producteurs et on la stockera. J'ai presque fini. Voilà. Donc, les énergies renouvelables et les économies d'énergie, c'est forcément notre avenir. C'est un avenir proche. D'ailleurs, vous pouvez vous demander quel âge vous aurez quand on passera le pic des énergies fossiles. C'est en 2040, dernier délai. Voilà, vous ne serez pas encore trop vieux. Donc en fait, ceux qui vont tous taper ou presque, bah, c'est vous. Il faut que vous sachiez ce qui vous attend, quoi. Bon, par contre, c'est aussi vous qui allez sans doute isoler les maisons, votre génération qui va isoler les maisons, monter toutes les éoliennes, les panneaux solaires et tout ça. Et ça, c'est forcément notre avenir énergétique. Alors, il y a des tas de trucs que je n'ai pas tout à fait évoqués pour l'avenir énergétique, mais il y a forcément une période qui sera comme ça. Et puis, ben voilà, c'est une quantité de travail énorme. Il y a un truc dont vous ne devriez pas manquer, c'est le boulot. Ça, c'est aussi une des choses qu'on peut éventuellement prévoir pour l'avenir. Voilà, je crois qu'on peut passer maintenant aux questions de toute nature.